France Culture.
Avoir nu quatrième épisode, portrait de l'économiste en politique. Bonjour Philippe Aguillon.
Bonjour Caroline.
Je vous propose deux axes pour cet épisode-là. Le premier, c'est que vous nous avez raconté que vous étiez venu à l'économie par la politique.
Oui.
De fait, vous étiez étudiant vendeur de l'Humanité Dimanche. Vous avez milité,
oui,
je crois, au Parti communiste français pendant 10 ans.
Oui.
Donc la première question, ça sera comment le marxiste que vous étiez s'est rallié à l'économie de marché pour devenir ce que vous appelez un bon social-démocrate? Comment le révolutionnaire est devenu réformateur? Comment l'étudiant qui voulait abolir le capitalisme s'est rallié à la cause de sa régulation? Ça, c'est le premier axe. Et puis, le deuxième axe, c'est évidemment ce que l'économiste que vous êtes est allé faire en politique. Alors, pour le dire rapidement et schématiquement, de François Hollande à Emmanuel Macron, c'est-à-dire plutôt chercher les rapports que vous avez établis entre le chercheur savant et le politique, pour reprendre un ouvrage savant et bien connu de Max Weber. Alors commençons par les débuts. Je crois que votre obsession, ça a toujours été, en tout cas quand vous étiez jeune, la pauvreté.
Oui.
C'est ça qui vous a fait entrer en politique.
Je suis scandalisé, si vous voulez, le fait qu'il y ait des jeunes, par exemple, qui sont issus de milieux défavorisés, et que de ce fait, ils n'aient pas les mêmes possibilités que les autres. Ce qu'on appelle maintenant les Einstein ou les Marie Curie perdus, comme dirait mon collègue Xavier Jaravel, c'est-à-dire des enfants très, très intelligents, très doués, issus de familles modestes, et qui, de ce fait, n'arrivent pas à réaliser leur potentiel. Voilà, ne peuvent pas innover, créer des entreprises, s'épanouir, faire ce qu'ils veulent, quoi. Ça, ça me révolte. Ça, c'est pour moi là, c'est le sujet de révolte. La misère et les trappes de pauvreté et l'absence de mobilité sociale.
Alors, cette révolte, cette indignation, c'est ce qui a fait que vous êtes entré en économie, c'est aussi ce qui a fait que vous êtes entré en politique.
Pourquoi? C'était le parti des ouvriers. Je voulais rencontrer des ouvriers. C'était le seul parti où tu rencontrais des ouvriers. C'était le Parti communiste.
Est-ce que vous diriez que ça a été la première connexion avec le monde politique?
Ça a été une formidable expérience. C'est des gens d'un grand dévouement. J'ai rencontré des gens d'une grande qualité. Je voulais être permanent du Parti communiste. Donc j'ai fait les écoles, l'école d'un mois, ce qu'on appelait l'école, elle n'existe plus maintenant. L'école Maurice Thorez, c'était à Choisy-le-Roi, avant l'école de la Fédération de Paris. J'ai vraiment côtoyé des ouvriers, des dirigeants syndicaux qui venaient apprendre, qui venaient eux-mêmes. Ils avaient leur expérience, leur intelligence de la vie, ce qu'ils avaient appris. Et ils venaient lire des textes et interagir avec des gens qui avaient davantage de familiarité avec les textes. Et c'était cette merveilleuse entente entre... Moi, j'apprenais d'eux l'expérience et l'expérience militante et la vie. Et eux, avec nous, lisaient les textes de Marx, etc., ou d'autres textes. Et ça, ça a été une expérience unique pour moi, de terrain. Donc, je ne crache pas dessus du tout. Et puis, il y avait un idéal, c'est-à-dire qu'ils voulaient un monde meilleur. Voilà, ils croyaient dans la possibilité d'un monde meilleur. Et voilà. Et le Parti communiste, c'était un des rares endroits où on faisait de la promotion des gens venant justement de milieux très défavorisés par le Parti communiste, sont montés. On leur disait, mais vous pouvez devenir député, maire, par le parti, quoi. Et donc... Je trouvais que c'était une très belle chose.
C'est le départ aux États-Unis qui a fait que vous avez...
D'abord, il y a eu un peu la rupture du programme commun, donc ça, il y avait un petit peu. Mais quand je suis parti aux États-Unis, il y avait quand même... J'avais l'espoir de l'eurocommunisme. Donc moi, j'étais peut-être influencé par le papa. J'étais très admiratif de Berlinguer, en fait, voilà, du Parti communiste italien. En 76, il y a eu un rapprochement. Il y a eu ce qu'on appelle la vague eurocommuniste. Les communistes français sont rapprochés des communistes italiens et communistes espagnols. Et puis après, ils se sont éloignés à nouveau avec l'Afghanistan et il y a eu à nouveau un refroidissement au sein du parti. Après, il y a eu l'arrivée de la gauche au pouvoir et à nouveau, il y a eu des ministres communistes et là, il y a eu un parti gouvernement. Il y a eu, le parti communiste aurait pu évoluer comme le parti italien, voilà. Et il a un peu manqué ça, quoi. En 83, il y avait un peu une croisée des chemins pour le parti communiste. Où est-ce qu'on allait, du côté Fitterman ou d'un autre côté, quoi. Voilà. Mais bon, je pars partir sur l'histoire du parti communiste. Moi, je pars en 84 aux États-Unis. Et donc, évidemment, aux États-Unis, je vais pas faire du militantisme étant aux États-Unis. Donc, je ne milite plus, évidemment.
Entre 1984 et, disons, votre retour en France, il y a eu beaucoup d'allers-retours. Alors, disons, entre 1984 et 2006, parce que 2006, vous entrez au Conseil d'analyse économique. Est-ce qu'il y a eu autre chose?
Non, mais ce qui se passe, c'est que d'abord, il y a... il y a Gorbatchev qui arrive au pouvoir en 85. Alors, les communistes français, ils accueillent Gorbatchev, oui et non, parce que ils sont quand même contents, mais... Le Parti communiste français était un parti beaucoup plus proche, de la vieille garde soviétique, etc., que le parti italien. D'accord? Voilà. Donc, Gorbatchev arrive, et quelque part, il commence à dire des choses que qu'auraient dit les Italiens et que les Français n'auraient pas dit. Voilà. Donc, même les communistes là-bas, ex-communistes, disant, moi, on veut aller vers l'économie de marché. Je veux dire, à la Berde, j'ai des gens qui étaient des proches de Gorbatchev qui disent, on veut aller vers l'économie de marché. Tu te dis, ben voilà. Donc, je veux dire, si eux disent que même l'économie de marché, c'est bien, c'est que l'économie de marché, c'est bien. Tu vois, je veux dire, bon, moi, je m'étais un peu quand même fait mon idée là-dessus, puisqu'il y avait eu l'archevêque du Goulag, il y avait eu quand même des différentes choses, et on savait que quelque part, le problème du système communiste, c'est que d'abord, un, sur le plan de l'économie, la croissance stoppe à un moment donné, parce que uniquement en se basant sur l'accumulation de capital, qui était la source première de croissance en Union soviétique, et sur l'imitation, à un moment donné, ça ne suffit plus. Il faut faire des grandes innovations. Et à part peut-être dans l'espace et l'armement, ils n'innovent pas beaucoup. Il n'y a pas de grandes innovations qui viennent des pays socialistes. Tandis que l'innovation se fait dans les économies de marché. Donc je comprends d'abord que l'économie de marché, ça vous donne de l'innovation, de la prospérité et de la liberté. Et donc, je me dis, ben, c'est un meilleur système. Voilà. Donc, et je vois que les pays scandinaves arrivent à réconcilier innovation d'un côté et inclusion sociale et protection sociale de l'autre. C'est plutôt l'idée de dire, ben, l'économie de marché, finalement, c'est quand même le moins mauvais des systèmes. Et le tout, c'est comment je peux le rendre à la fois plus prospère et plus inclusif. Voilà. Et finalement, c'est pas très original. On est beaucoup à voir, d'une manière ou d'une autre, évoluer dans la même direction.
Entre, disons, le début des années 1980 et la fin des années 1990, vous avez changé de conviction, vous vous êtes rallié à l'économie de marché.
Et c'est ce Mais l'objectif est le même. Je suis toujours obsédé par la pauvreté et les trappes de pauvreté. Vous voyez ce que je veux dire ? L'objectif est le même, le moyen n'est pas le même. Voilà.
À quel moment, Philippe Aguillon, avez-vous eu une première expérience avec le monde politique ? Disons, le monde proche des responsabilités politiques. Est-ce que c'est en entrant au Conseil d'analyse économique, rattaché au Premier ministre, à l'époque c'était Dominique de Villepin, c'était en 2006. Est-ce que c'est là que a commencé la première...
Oui, il y a eu ça. Il y avait eu la campagne de Ségolène Royal, donc j'étais un peu dans la campagne de Ségolène.
Bah, c'est 2007.
Voilà, ça c'est 2006-2007. Il y a effectivement le Conseil d'analyse économique, on approche des politiques, mais on n'est pas vraiment... On fait des rapports d'économie quand même. Mais on n'est pas vraiment dans la politique. Et puis, il y a eu...
Mais vous conseillez directement les politiques, à ce moment-là, non ?
C'est-à-dire, on fait des rapports, on travaille sur des choses qui, peut-être, peuvent influencer des politiques. C'est plutôt comme ça. Mais d'ailleurs, j'ai toujours conçu mon rôle, pas du tout comme étant... J'ai jamais voulu être visiteur du soir, par exemple. C'est pas du tout mon truc. Ou homme de cour. C'est pas du tout mon truc. Moi, c'est de dire, voilà, j'essaie de baser sur mes recherches, de produire certaines choses, des rapports, etc. Et puis ensuite... Ça influence ou ça influence pas.
Pour aider à la prise de décision publique.
Pour aider à la prise de décision. Pour en tout cas dire, je peux avoir une voix parmi d'autres. Je suis citoyen, je suis homme de la cité et je suis économiste en même temps. Donc il y a l'idée de dire, parce que j'ai quand même voulu faire de l'économie pour rendre le monde meilleur, pour contribuer avec d'autres à rendre le monde meilleur. Donc c'est quand même l'idée. Mais je produis des rapports ou je produis des études. Et puis, j'espère qu'elles vont avoir de l'impact. Voilà, c'est comme ça. Je me suis jamais prévalu d'une connivence avec un tel. Bon, il s'est trouvé que j'ai connu Ségolène Royal. Ensuite, j'étais dans la campagne de Hollande, mais je ne connaissais pas du tout François Hollande. C'est une amie commune qui nous a mis en contact. Et je suis allé voir François Hollande pour lui dire, au printemps 2011, voilà, qu'il y a une chance de social-démocratie. Je suis prêt à constituer une équipe d'économistes avec d'autres noms, Jean Pisani, Eli Cohen, Gilbert Sept, et on peut venir t'aider et tu seras le seul candidat à avoir quatre personnes qui t'aideront, tu vois. Et donc, je suis rentré, du coup, dans la campagne d'Hollande. Mais, du coup, là-bas, j'ai retrouvé Macron.
Attendez, parce que justement, entre les deux, il y a quand même eu la commission pour la libération de la croissance.
Alors, il y a la commission Attali, voilà.
Et la commission Attali rend un rapport à Nicolas Sarkozy.
Elle rend un rapport, absolument, elle rend un rapport à Nicolas Sarkozy. Donc d'abord, avant la commission Attali, j'avais fait des rapports, moi, pour le Conseil d'analyse économique, les leviers de la croissance française, qui quand même inspirent pas mal le rapport Attali. Si on regarde bien les deux rapports, il y a quand même une grosse... C'est toujours l'idée, la France, entre 45 et les années 2000, on a fait de la croissance par de l'imitation, et de la reconstitution de capital stock. Hein. Et puis, on a épuisé les ressorts de l'accumulation de capital et de l'imitation technologique, et on doit passer à une économie d'innovation. Ce qu'on continue à dire, d'ailleurs, avec le rapport Draghi. Et donc, on doit faire des réformes qui nous rendent plus innovants. C'est, en gros, c'est les leviers de la croissance, c'est également la philosophie du rapport Attali. Bon, c'est pas tout à fait une coïncidence.
Donc que ça aide à gauche ou que ça aide à droite?
Que ça aide à droite, oui, centre-gauche, centre-droite, voilà, c'est une... Après, tu peux le faire avec un modèle plus social, moins social, mais le constat est le même. On doit redevenir une économie innovante, parce que sinon, notre croissance va s'essouffler. On a épuisé les 30 glorieuses, quoi. Les 30 glorieuses, c'est une croissance par limitation technologique, et on doit devenir une économie vraiment innovante, d'accord? Donc, réforme du marché des biens et services, l'université, un certain nombre de choses qui étaient dans le rapport Attali. Donc moi, si vous voulez, le rapport Attali, c'est tout au mérite de la commission dans son ensemble, mais moi, en tout cas, pour ce qui me concerne, je savais ce que je voulais qu'il soit dans le rapport Attali. Dans la commission Attali, j'ai connu Macron, qui était rapporteur, adjoint, qui était un des rapporteurs, et donc on s'est vu beaucoup.
Il était tout jeune à l'époque, hein, 29 ans.
Souvent s'asseoir là où vous êtes maintenant, voilà. Et je pense que, voilà, on dit que j'ai pu avec d'autres l'influencer, voilà, influencer sa pensée économique.
On va voir en quoi, mais effectivement, après il y a le groupe de la Rotonde.
Alors après Macron, c'est 2007-2008. Ensuite, on arrive à 2011. Je continue de voir Macron, on se voit parce qu'il me, là, il vient, il me parle de ce qu'il fait. On est copains et on se voit. Donc, ouais. Et puis arrive, il y a le Sofitel, donc le Strauss-Kahn ne peut pas y aller, et donc qui va y aller? Et effectivement, pour moi, celui qui était le plus crédible, c'était Hollande à ce moment-là. Je suis allé voir Hollande en lui disant « Je peux t'amener trois autres économistes et tu seras le seul candidat avec un groupe d'économie solide. » D'accord ? Il se trouve qu'entre-temps, je crois que c'est Jacques Attali, avait présenté Hollande à Macron. Et donc, quand on a fait une réunion ensuite avec un certain nombre de personnes dans l'entourage de Hollande, Emmanuel était là également. Et c'est là qu'on s'est dit « Bon, on va préparer ensemble, Hollande. » On a fait une première conférence de presse en août 2011. Je l'ai co-organisée, en fait. Et Emmanuel était à la manœuvre, mais il y avait d'autres gens également. Et puis après, il y a eu le groupe de la Rotonde qui s'est formé, qui était un des groupes qui conseillait Hollande, qui a préparé un rapport écrit.
Et qui préparait, donc, qui a aidé à nourrir le programme du candidat François
voilà,
Hollande.
Voilà, exactement.
Qui a gagné donc les élections présidentielles en 2012.
Voilà.
Vous, Philippe Aguillon, vous avez continué de conseiller François Hollande en les deux
Alors,
premières années.
Alors, la façon dont ça passait... C'est pas comme ça que ça marche. C'est souvent
En
France, souvent, les universitaires, on les utilise pendant, au moment des élections. Et une fois l'élection gagnée, on les remet dans un tiroir et on s'adresse surtout à des personnes de l'Inspection Générale des Finances ou à des grands corps. Voilà. Sans insulte du tout pour l'Inspection Générale des Finances. Mais c'est un petit peu ça. Donc c'est pas qu'Hollande a dit, je veux que tu continues de me conseiller, quoi. Non. Ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que je reste, donc, on l'avait aidé à être élu, hein. On a fait ce rapport, cette commission de la Rotonde. Avec Macron et avec mes quatre économistes et avec quelques autres. Et puis ensuite, il est élu. Il se passe pas grand-chose jusqu'en 2014, le CICE. Et à ce moment-là, il y a le tournant de l'offre.
Voilà.
Et au moment du tournant de l'offre, on aide Macron, toujours mon petit groupe, on aide Macron à convaincre Hollande qu'il faut un tournant de l'offre.
Le tournant de l'offre, c'est la phrase dans son ensemble, c'est plutôt le tournant vers une politique
vers
de l'offre.
Vers une politique de l'offre, exactement.
Et ça a été présenté.
C'est-à-dire, voilà.
Ça a été présenté comme une rupture idéologique assez notable par rapport à 2012, par
Absolument.
Rapport au programme précédent.
Oui.
C'est vrai que c'est ce qui a donné lieu à, par exemple, le CICE, le crédit d'impôt, qui visait à alléger le coût du travail.
Oui, c'est une dévaluation réelle, en fait. Le CICE, c'est un peu comme la TVA sociale, si vous voulez. C'est de faire une... Comme je ne peux pas dévaluer, j'ai plus le franc que je peux dévaluer par rapport à d'autres monnaies, puisque j'ai l'euro, je ne peux pas faire une dévaluation monétaire. J'utilise des moyens fiscaux pour faire une dévaluation en termes réels. Ça veut dire que ça me donne de l'oxygène. Je mets des tarifs ou tu mets des subventions. Et du coup, ça fait que c'est comme si tu faisais une dévaluation monétaire, tu vois. Et donc, ça te donne de l'oxygène pour innover.
Oui.
C'est ça que ça fait.
C'est ça, c'est le pari de l'innovation.
C'est le pari de l'innovation.
De la compétitivité des entreprises.
Exactement.
Plutôt que les ménages, la consommation, les dépenses publiques, si je le dis.
Mais c'est pas contre les ménages en même temps. C'est de dire, on va... pour gagner plus, il faut devenir plus productif. C'est-à-dire, c'est de dire, je ne peux pas vivre au-dessus des moyens. Je ne peux augmenter vos salaires que si je deviens plus productif. Donc, je donne un ballon d'oxygène aux entreprises pour qu'elles innovent. C'est comme une dévaluation. C'est-à-dire qu'une dévaluation fait que les entreprises françaises deviennent plus compétitives pendant un certain temps. Mais c'est une compétitivité très temporaire, celle que tu fais par une dévaluation monétaire ou fiscale. Ensuite, la vraie source de compétitivité, c'est l'innovation. Donc, c'est ce qu'on appelle une compétitivité coût, une compétitivité hors coût. La compétitivité hors coût, c'est celle que tu acquiers par l'innovation, en ayant des meilleurs produits, quoi. Le pacte de responsabilité, ça vient par-dessus. C'est ça. Ça magnifie le CICE, en fait.
Et ce pacte-là promettait des allègements de cotisations patronales.
Oui.
En échange d'engagements, d'emplois.
Voilà. Un peu comme avaient fait les Allemands avec Schröder. Un petit peu. C'est pas exactement pareil, mais il a dit, c'est un peu le marché, tu veux, c'est de dire, vous employez et en échange, on vous permet d'être plus compétitif.
Voilà. Sauf qu'à ce moment-là, Philippe Aguillon, c'est la gauche qui vous attaque. Enfin, qui vous attaque, vous, non, mais qui attaque le gouvernement de François Hollande en disant, mais non, il n'y a pas assez de contrepartie sociale, le gouvernement a privilégié les patrons au détriment des salariés et du pouvoir d'achat. C'est à peu près à ce moment-là que commence...
C'est ce qu'on appelle le moment des frondeurs, oui.
Voilà, au Parti Socialiste, oui. La gauche de la gauche, disant, bon, donc comment vous...
Et moi, j'ai une position assez forte à l'époque. Je suis très scandinave, très social-démocrate scandinave. Donc pour moi, je pense d'abord qu'il faut la promotion sociale à fond, l'éducation, les services publics, la promotion sociale, mais en même temps, l'innovation et la productivité. Voilà, je suis un socialiste de production. Vous voyez, je crois beaucoup qu'on ne peut pas distribuer ce qu'on ne produit pas. Voilà, et je n'ai pas changé. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, la ligne des frondeurs, c'est de dire tout ce qui va dans du côté entreprise, ils voient les choses comme un jeu à somme nulle. Ils pensent que tout ce qu'on donne aux entreprises, on le prend aux autres. Moi, je raisonne pas comme ça. Je pense qu'on augmente la taille du gâteau. En rendant les entreprises plus productives, il va y avoir davantage à partager. Et c'est une vision différente, tu vois.
C'est aussi avec cette pensée-là, qui est toujours la vôtre, oui. Qu'en 2017, dans une tribune au journal Le Monde, vous signez avec 40 économistes un appel en faveur du candidat d'En Marche, Emmanuel Macron, à l'époque.
Oui. Oui.
Parce que vous dites, et là je vous cite, les 40 économistes, qu'il est le seul capable de porter un projet permettant de retrouver une croissance équitable. C'est
oui.
Là que vous avez commencé à travailler réellement pour Emmanuel Macron. Vous aviez déjà commencé
non,
un peu avant.
On a travaillé d'abord. J'ai tout travaillé avec lui puisqu'on avait travaillé à la commission Atelier ensemble. Ensuite, on a fait la rotonde. Ensuite,
mais là, il est candidat.
On a fait le CICE. Et il est candidat. Et je rejoins l'équipe qui est dirigée par Jean Pisani. Jean Pisani-Ferry. Voilà. Et donc, je fais partie de cette équipe. Voilà. Je ne suis pas.
Des 3-4 économistes qui ont conseillé.
Oh, il y en avait quelques autres également. Je sais pas. Hélène Rhet est dedans. Enfin, il y avait d'autres économistes. On était plus que 3. Hein. On était quand même un petit groupe. Et ces gens qui dirigent.
Philippe Martin aussi.
Philippe Martin était là, évidemment.
C'est à vous qu'on doit le en même temps.
À moi personnellement. Non.
À vous, à ce petit groupe.
Non. Je pense que chacun a sa philosophie. Moi, on me doit rien. Mais en tout cas, voilà. Mais il y avait l'idée. On voulait quelque chose. Vous parlez du en même temps, c'est intéressant parce que nous, quand même, l'idée, on venait de la gauche. Et on vient de la gauche. Et donc, on disait, nous, on veut davantage, on veut des startups, on veut que des entreprises qui puissent grandir, c'est ma croissance choupétérienne. Mais je veux que ça profite à tous. Je veux en même temps du dialogue social et de la promotion sociale.
La théorie du ruissellement.
Non, justement. Ah. Le ruissellement, c'est autre chose. Le ruissellement, ça veut dire, je rends les gens plus riches et automatiquement, ça va ruisseler. Moi, je ne crois pas dans ça du tout. Moi, je pense qu'il faut permettre aux entreprises d'innover, mais en même temps, il faut être très volontariste sur la politique éducative, sur la flexisécurité et sur la politique industrielle.
Et pourtant,
je ne crois pas du tout. Le ruissellement, c'est de dire, il suffit de rendre les gens riches, et automatiquement, ça va descendre. C'est ça la théorie du ruissellement. J'ai jamais cru dans la théorie du ruissellement.
En 1997, vous avez écrit un article en anglais.
Mais mon article dit que ça ne marche pas. Et que justement, il faut une politique volontariste.
La Startup Nation, vous y croyez ?
Non, mais là, on parle de deux choses. Le ruissellement,
oui,
c'est encore autre chose.
Oui.
Donc, le ruissellement, je n'y crois pas. Donc, l'article de 97, je explique que ça ne marche pas et que donc, il faut une politique redistributive par ailleurs, d'accord ? Et la start-up, je pense qu'il faut aider. Parce qu'en France, il y avait un grand problème de créer des nouvelles entreprises. Ça devait être, il y avait beaucoup d'obstacles administratifs. Donc, rendons plus facile la création d'entreprises. Il faut aussi créer un écosystème leur permettant de grandir. Sinon, elles se créent en France et elles vont grandir aux États-Unis. Moi, je voyais bien, parce que pendant 20 ans, j'ai vécu aux États-Unis, j'ai vu défiler plein de consuls de France. Ils nous disaient, notre boulot principal, c'est d'accueillir des entreprises françaises, et nous, on les fait grandir ici. Je disais, c'est vraiment pas juste, parce qu'il faudrait qu'on puisse grandir en France. Donc ça, j'étais convaincu qu'il fallait, comme les Scandinaves le font, comme les Suédois, etc. Mais en même temps, je pensais qu'il fallait le volet éducation, le volet dialogue social, le volet protection sociale. J'ai toujours pensé qu'il fallait réconcilier. Et quand on a vu, dès le début de Macron, qu'on avait l'impression que l'avion penchait trop à droite. Vous vous souvenez qu'il y avait une note qu'on avait envoyée à Macron qui avait fuité dans Le Monde.
Absolument, en 2018.
En 2018, voilà.
Le compte n'y est pas.
Le compte n'y est pas.
Avez-vous décrit.
Donc déjà en 2018, avant les Gilets jaunes, on alerte sur l'avion qui penche à droite.
Vous espériez un rééquilibrage social.
Voilà,
vous
exactement.
Craignez un néo-giscardisme.
Voilà. Et donc, on n'a pas prévu les Gilets jaunes. Mais c'est une note qui sort avant les Gilets jaunes. on l'écrit à Macron avant les Gilets jaunes.
Qu'est-ce qui manquait ?
Je pense qu'il manquait un sens du dialogue social, ce qu'avait Rocard un petit peu. Voilà, Rocard, il faisait des réformes, mais il dialoguait beaucoup, et puis il prenait les syndicats très au sérieux. Mais même quelqu'un comme Pompidou, quelque part, Pompidou, il a fait les accords de Matignon en 68, hein. T'es pas un homme de gauche. Mais moi, j'ai toujours dit à Macron, il te manque Raymond Souby, tu n'as pas un Raymond Souby chez toi. Et je suis revenu à la charge en 2023 avec la réforme des retraites. Et ce qui lui a manqué. Je pense que, voilà, et ça, je crois, on en reparlera. C'est, il y a d'abord, on fait notre note en 2008, ensuite arrivent les Gilets jaunes. Qu'est-ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes ? On a poussé pendant des années les gens à construire dans des grandes banlieues. Mais il n'y a aucun moyen de locomotion, parce qu'il n'y a pas de RER, à part à Paris, dans les autres grandes villes, il n'y a pas de RER. Il y a des métros, mais il n'y a pas de RER. Et on les encourage, ces gens-là, pendant des années, à acheter des voitures diesel et à vivre en grande banlieue. Et tout d'un coup, on leur dit, ah ben, tant pis pour vous, on va augmenter le prix du gasoil, sans leur donner aucune alternative. Ben, c'est évident que ces gens-là se révoltent, et ça donne lieu aux Gilets jaunes. Et à un moment donné, quand j'ai vu que ça montait avec d'autres, on suggère de dire, stop, arrête, arrête. Et c'est là que le Premier ministre de l'époque n'a pas vu le truc du tout. Et que Alexis Kohler n'a pas vu le truc du tout non plus. Ces gens-là ont poussé Macron,
Alexis Kohler,
qui était le secrétaire général de l'Élysée à l'époque, ils ont poussé Macron dans la rigidité. Moi, j'ai un copain, il poussait pour le moratoire. On était plusieurs à dire « moratoire, stop, la cocotte minute va exploser ». Et là, ils ont laissé le truc exploser, quoi. Et c'était toujours l'idée de manque de « out of touch », comme on dit en anglais. « You are out of touch », c'est-à-dire que vous faites des trucs d'optimisation dans votre coin et vous ne voyez pas ce qui se passe dans la population.
Hors sol, peut-être, en
hors
français.
Sol.
Hein,
c'est ça. Hors
et
sol.
Avez-vous été écouté ?
Non, puisqu'il y a eu l'explosion. Alors après, quand il y a eu l'explosion, moi, j'ai suggéré avec d'autres d'augmenter le SMIC, en fait, c'est d'augmenter, de faire la prime à 1 000 euros. Donc ça, j'ai les suggéré et là, on m'a dit tout de suite, on le fait. Et donc, bon, alors, parce que c'est moi qui ai envoyé le truc, mais c'est vrai que ça a coïncidé. J'ai suggéré la prime à 1 000 euros. Donc, je crois que j'ai une paternité dans la prime à 1 000 euros. Voilà. Pour essayer d'éteindre le feu, quoi. Tu vois? Donc, quand il y a eu le feu, à ce moment-là, j'avais un dialogue. Tu vois? Je pouvais parler, quoi. Et à nouveau, j'étais écouté.
C'est peut-être pour ça que vous êtes revenu sur le devant de la scène en 2024 avec deux axes. Le premier, c'était la reconnaissance.
Ah non, d'abord, il y a la réforme des retraites en 2023.
Oui,
la réforme des retraites.
C'est vrai que vous revenez sur
très
le devant de la scène avec la réforme des retraites.
L'élection de Macron en 2022 et en 2023, je vois tout de suite que 64 ans, ça ne va pas passer. C'est psychologique en France, peut-être parce que beaucoup de gens ne sont pas heureux au travail. L'âge, c'est une barrière. Voilà. Et je voyais bien qu'au-delà, Berger disait 63, c'est le maximum. J'avais Berger d'un côté, et de l'autre, les LR, Marlex, Bertrand me disaient, nous, 63 et revoyure en 27, ça nous va très bien. La conseillère sociale de l'Élysée était d'accord sur les 63 ans. Elle était d'accord. Et à nouveau, Kohler pousse à fond pour les 64. Moi, je me souviens d'une réunion avec Kohler et Macron, et je dis, vraiment, c'est une folie, stoppez à 63. Parce que là, vous êtes en train de partir dans le mur, quoi. Et Kohler me dit, de toute façon, avec les syndicats, on peut pas s'entendre avec eux. Mais je dis, parce que tu n'essayes pas de t'entendre avec eux. Et c'est là qu'il te faut un Raymond Soubi maintenant. Parce que lui, il saurait s'entendre avec eux. Et où on est maintenant? On est à 62 ans et 9 mois. L'horloge est stoppée jusqu'à 27. Mais à quel prix? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu tous les mouvements sociaux de 2023. On a tous voté Glucksmann après, parce qu'on était furax. Tous les macronistes de gauche, on a été voté Glucksmann. Donc il y a eu le score de Glucksmann, et en réaction au score de Glucksmann, il y a eu la dissolution.
Est-ce qu'au final, vous pensez avoir influé sur la politique ?
C'est toujours aux autres de dire si vous avez influé ou pas. Je peux pas dire, moi, ce que j'ai fait ou ce que j'ai pas fait, quoi.
Vous pouvez avoir retrouvé des choses que vous auriez aimé voir.
C'est l'idée qu'il fallait être plus innovant, qu'il fallait que l'Europe se réveille au niveau européen. Les idées que j'avais poussées avec Prodi, qu'on a poussées en France avec les leviers de la croissance. Donc l'idée qu'il faille aller vers de l'innovation, qui est encore le rapport Draghi. C'est une idée que j'ai poussée. C'est-à-dire que souvent, ce qui se passe quand tu es économiste, tu veux pousser une idée, tu dois revenir à la charge constamment. Et tu dois être patient, parce que tu n'es pas entendu du jour au lendemain. Les idées, elles percolent petit à petit, tu vois, elles percolent pas d'un coup. Donc je crois qu'il faut avoir énormément de persistance, c'est-à-dire qu'il faut dire, voilà, je crois dans ce que je fais, et je vais continuer après à dire la même chose. Et ça finit ou pas par imprégner, voilà. Et c'est ça que je pense qu'à la longue, il y a maintenant une prise de conscience que l'Europe a besoin de se réveiller, qu'il faut de la politique industrielle en Europe et pas juste de la politique de concurrence. Beaucoup de gens n'étaient pas convaincus de ça et que l'Europe doit se doter de l'écosystème pour innover, mais la France aussi. Et ça, je crois que c'est un combat que j'ai mené depuis des années et des années avec d'autres Et je crois que ça commence à prendre. Je crois que ça commence à percoler.
La politique.
C'est plutôt comme ça, vous voyez, que je conçois la chose. Plutôt que de dire, moi, vous savez, il est mon copain, il n'est pas ton copain, ça, je crois
pas du tout. C'était pas ma question.
Non, 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 j'ai bien compris, je répondais pas à vous. Mais je veux dire, ça, j'y ai jamais cru. Moi, je crois que c'est, on se peut exprimer publiquement. Et à un moment donné, c'est vos idées prévalent ou ne prévalent pas.
Est-ce qu'il y a aussi un intérêt en retour pour le chercheur que vous êtes? C'est-à-dire, est-ce que la politique économique...
Nourrit la recherche, ouais. Absolument. Par exemple, si vous voulez, j'ai... Par exemple, je prends un exemple sur l'intelligence artificielle. On m'a demandé de co-présider la commission intelligence artificielle avec Anne Bouvreau.
En 2024.
Ben maintenant, je fais beaucoup de recherches sur l'impact économique et environnemental de l'IA. Et je pense que je l'aurais pas fait autant si j'avais pas co-présidé cette commission.
Est-ce que aussi ça permet aux chercheurs que vous êtes ou à l'expert que vous êtes parfois de lutter contre les fausses évidences, de clarifier les termes du débat aussi bien en politique que sur la place publique?
Oui, et puis moi des fois il y a eu des cas où je suis parti sur un mauvais préjugé. Par exemple, je croyais que les investisseurs institutionnels au début étaient court-termistes. Et en fait, je me suis rendu compte qu'ils ne l'étaient pas en général et que ils protégeaient les chefs de grandes entreprises pour leur permettre de prendre davantage de risques et au contraire d'être plus innovants. Et ben j'étais parti sur une ligne totalement différente. Et les données m'ont conduit à réviser mes a priori. Donc ça m'est plusieurs fois arrivé de partir sur un présupposé faux et en fait de voir que les données allaient totalement à l'encontre de ce que je pensais et de modifier ce que je pensais, quoi.
Dernière question, est-ce qu'il reste un peu de marxisme dans votre conception de l'économie politique?
Ben, je crois beaucoup quand même dans le rôle de l'histoire, je crois quand même dans la conception de l'histoire, je crois que beaucoup quand même, les individus jouent un rôle, mais les groupes, les classes sociales jouent un rôle, je crois beaucoup quand même. L'avènement, tu peux quand même dire, l'avènement de la bourgeoisie montante, et ça donne la révolution glorieuse en Angleterre, ou ça donne la révolution française, t'as quand même une montée de la bourgeoisie, tu peux pas dire c'est juste monsieur X ou monsieur Y, tu as quand même la montée de la bourgeoisie qui tout d'un coup demande ses droits. Donc ça c'est marxiste quand même de dire, je vois ça en termes de classe. Tu peux pas comprendre la révolution glorieuse en Angleterre si tu raisonnes uniquement c'est Cromwell ou c'est machin truc. C'est la bourgeoisie qui monte et pareil pour la révolution française et Napoléon. Donc je crois quand même que Marx, ça te dit quand même que tu dois regarder en termes de classe. Bon, ça reste évidemment. Donc il y a beaucoup de choses, des idées importantes chez Marx qui demeurent. Et comme je vous ai dit, le Capital a donné lieu à au moins 3 prix Nobel. Sur la théorie de l'exploitation, c'est Oliver Hart. Sur les prix de production, qui est le livre 2, c'est Leontief. Et le livre 3, c'est nous. Puisque Schumpeter l'a pas eu, c'est nous qui l'avons eu. Donc Marx, Capital, 3 prix Nobel.
Eh ben c'est très bien, ça vous fait la transition vers la dernière émission, celle de demain, puisque nous parlerons de votre prix Nobel, Philippe Aguillon, le prix Nobel, caisse de résonance mondiale. Merci et à demain.
À demain. Merci bien.
C'était À Voix Nue avec Philippe Aguillon. Réalisation Manouchak Fachaï, prise de son Clément Vuillet, chargée de programme À Voix Nue Daphné Abgral. Une série de Caroline Brault est disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.